J'ai 78 ans, 19 ans aujourd'hui, mais je n'ai jamais vu brûler une futaie de hêtre à Lubac.
C'est une commune où il y a 85 habitants, qui est assez étendue en fait. Il y a un hameau qui s'appelle le hameau de la montagne, il y a le petit village de Sicoche, et il y a un autre hameau qui s'appelle le Forest, qui fait partie aussi de Sicoche. Assez étendue, des paysages diversifiés, hein, parce qu'on passe presque de la Provence à la montagne, à moyenne montagne on va dire, voilà. Et c'est surtout une commune où il y a principalement des agriculteurs qui font l'élevage, moutons et céréales aussi. Voilà.
Fausse piste à Sicoche, une émission de Radio Zinzine. Ce fut un pique-nique au goût de colère et de détermination. Plus d'une centaine de personnes se sont retrouvées le dimanche 21 juillet sur une belle prairie à 1000 mètres d'altitude à la montagne de Sicoche, un hameau faisant partie de cette petite commune des Hautes-Alpes à quelques kilomètres de Serres. Cette journée a été organisée par un collectif qui conteste ce qu'ils appellent une autoroute forestière. En fait, une piste DFCI, défense de la forêt contre l'incendie, que le maire de Sicoche va absolument réaliser dans la forêt belle et ancienne qui couvre le flanc nord de cette vallée. Le collectif a réussi le tour de force de réunir des associations et des organisations qui ne se retrouvent pas souvent dans un même combat. La Société Alpine de Protection de la Nature, la Ligue protectrice des oiseaux, du groupe Chiroptère de Provence, l'Europe Écologie Les Verts des Hautes-Alpes et l'Association communale de chasse agréée. Deux conseillers municipaux de Sicoche font également partie de ce collectif. Vous pourrez les entendre dans cette émission. Mais pour commencer, écoutons la cheville ouvrière de ce collectif, Élise Rivoal, qui habite à la montagne de Sicoche et qui a ouvert la réunion tenue sous les arbres, avec ce résumé de l'affaire.
Là, vous avez Lubac, de la montagne de Sicoche. De l'autre côté, vous avez l'Adré. Le sud est là, ça veut dire que la piste va être à Lubac, ça veut dire orientée vraiment vers le nord. Toute cette zone-là est une zone de source, hein. Donc une zone en grande partie peuplée de hêtres, ça veut dire de hêtres d'une essence de bois qui ne prend pas feu. Voilà. Donc le projet consiste à créer à peu près 14 km de pistes DFCI, de pistes défense de la forêt contre l'incendie, dans une zone donc où il y a très très peu de risques de feu. Le seul risque de feu, reconnu par tout le monde d'ailleurs, c'est la foudre. Il y a à peu près 1,5 feu de foudre par an, à peu près en moyenne, dans toutes les Hautes-Alpes. Alors on a très peu de chances d'avoir un feu de foudre ici. Il y en a toujours une, hein, c'est jamais un risque nul, mais s'il y a un feu de foudre dans les hêtres, il restera dans le hêtre et puis ça cessera tout. Hein. Donc on a très peu de risques de feu, mais on fait une DFCI. Alors pourquoi une DFCI? On s'est interrogé quand même. Alors une DFCI, parce que quand vous avez un projet de DFCI, vous avez 80% de subvention et aucune étude à faire. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de la justifier, vous n'avez pas besoin de faire d'étude d'impact, il n'y a aucun problème pour une DFCI parce qu'on considère que c'est la sécurité civile. Voilà. Donc c'est intéressant, il y a beaucoup de subventions et c'est très rapide. Alors, on se demande aussi pourquoi faire une DFCI ou une piste là. Alors, c'est là que les choses ne sont pas dites. Ça veut dire que c'est une DFCI. Alors, le maire, la commune de Sicoche, dont il fait partie, dit que c'est pour l'exploitation forestière. Or, l'exploitation forestière, d'après tous les renseignements qu'on a pu avoir, n'est pas vraiment rentable ici. D'autant plus que pour exploiter la forêt, il faudrait suivre la piste, la nouvelle piste qui serait faite, en passant par l'épine. Ça veut dire, pour rejoindre une route, faire environ 11 km pour rejoindre la première route, qui serait une route entre la route de Montmorin, la route du col des Tourettes. Donc, par exemple, pour retourner jusqu'à Serres, ça fait encore, je crois, 8 km, chose comme ça, au moins. Donc, ce n'est pas vraiment rentable. Il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de bois. On peut faire une exploitation forestière, mais ça ne se justifie pas 14 km de piste. Alors on s'interroge encore, on se dit, mais enfin, si c'est ni pour la DFCI, ni pour l'exploitation forestière, pourquoi? Alors en réfléchissant, on est arrivé à une explication qui nous semble plausible, c'est pour le développement du tourisme motorisé. Et oui, voilà, on est plusieurs à le penser. On pense qu'à long terme, pas à court terme, hein, parce qu'à court terme, il y aura des barrières, ce sera peut-être surveillé, ce qui n'est pas sûr du tout, mais on pense qu'à long terme, ça sera un développement de tourisme motorisé, parce que les piétons, on n'a pas besoin de 8 mètres d'envergure, 8 mètres d'emprise. Voilà. Donc voilà, donc tout notre objectif, c'est d'essayer de protéger cette forêt, parce que quand on fait une emprise de 8 mètres, à l'horizontale, et qu'on est dans une pente comme ça, il faut couper 15 mètres, 20 mètres de forêt de large pour arriver à avoir une horizontale de 8. Alors en plus, ce projet-là, la mairie envisage dans 2 ans ou 3 ans de le prolonger jusqu'à Somane. Ça veut dire encore 8 km, 6 km, on ne sait pas exactement, pour rejoindre Serres. Et là, ça se comprend encore mieux au niveau touristique, parce que grâce à ça, on relie par les plaines La Piard, Montmorin, Lépine, Sigottier et Serres. C'est un excellent circuit avec les... Voilà. Hein. Donc, ça fera 20 km de piste. Alors, pour l'instant, sur les 14 km, on avait dit qu'il y avait au moins 20 hectares de forêt supprimée, définitivement. Ça veut dire que c'est de la forêt qui n'existe plus. En grande partie, de la forêt communale, quand même. C'est quand même un bien public. Enfin, on trouve ça dommage qu'il y ait 20 hectares de forêt communale de hêtres. Et cette forêt là-bas, au fond, en particulier, au niveau écologique, est très intéressante parce que c'est une forêt qui date du XVIIIe siècle. Il y a eu une continuité écologique depuis le XVIIIe siècle. Donc, c'est quand même assez rare dans la région parce que les forêts ont été rasées puisqu'il y avait surpopulation, etc. Autrement, il y a plein de critiques à faire sur ce projet. Ce projet, je veux dire, d'abord, il y a des erreurs. Si vous regardez les cartes et vous regardez les devis, ce n'est pas les mêmes chiffres, enfin des tas de choses comme ça qu'on peut dire. Hein. Et puis, il n'y a aucune étude d'impact. On trouve au niveau écologique, moi je fais partie de la SAPN, donc Société Alpine de Protection de la Nature, on trouve ça complètement aberrant de faire des pistes comme ça sans regarder ce qu'on détruit. Donc il y a des espèces protégées là-haut, il y a un endroit en général qui est détruit. Ce n'est pas simplement des espèces protégées, c'est un endroit dans l'ensemble. Donc nous, on ne serait pas contre des pistes, peut-être certaines pistes, mais pas des pistes reliées à tout. Voilà. Pas une espèce de monopoly, j'allais dire, de reliées à tout, avec des pistes absolument incontrôlables, parce que c'est incontrôlable. Le maire m'a dit, mais oui, mais vous m'appelez au téléphone, s'il y a une 4x4 qui est là-haut, vous m'appelez et je viens verbaliser. Il habite à 12 km. Le temps qu'il arrive, la 4x4, elle est partie vraiment très longtemps, ou les 4x4, voilà.
C'était donc Élise Revoil lors de la réunion tenue sous les arbres à la montagne de Sigottier. Écoutons maintenant Nicolas Buffet, éleveur de brebis, voisin d'Élise Revoil, et l'un des deux conseillers municipaux opposés à ce projet de piste.
Parce qu'on est tout simplement dans un milieu absolument magnifique et préservé, avec une forêt qui est préservée, et en plus c'est un lieu qui est fermé naturellement, et le fait d'ouvrir des pistes va ouvrir intégralement le lieu, la forêt, et bon, après... Au niveau économique, en plus, ça paraît peu rentable parce qu'on est dans une forêt quand même sèche, donc avec des bois qui ne sont pas franchement exploitables non plus, à part pour du bois de chauffage. Et bon, c'est un projet qui n'a pas vraiment ni queue ni tête, quoi. En gros, c'est ça. En plus, au départ, c'était vraiment une piste forestière. C'était ça le projet de base communal. C'était une petite piste forestière. Et par la force des choses et des techniciens, c'est devenu une chose complètement folle. Un projet en plus démesuré, parce qu'on parle quand même de 13 km de piste dans une forêt de 250 hectares. Donc, pour avoir un ordre d'idée, d'après les gens de l'ONF, on est plutôt dans un cadre de forêt qui desservent 1000 à 2000 hectares pour ce genre de piste. C'est quand même pas. On est vraiment dans un projet excessif qui est en plus, qui au niveau du DFCI, est vraiment contestable parce qu'on se retrouve dans une hêtraie en versant nord. Donc au niveau de la lutte contre les feux de forêt en soi-même, c'est totalement inutile.
Mais qu'est-ce qui peut être finalement la motivation quand même du maire et finalement appuyé par le conseil général, la préfecture? Ils ont dû quand même regarder un tout petit peu. Mais qu'est-ce que c'est la motivation alors?
La motivation, elle est assez difficile à expliquer, si ce n'est qu'on pense quand même qu'il y a des enjeux économiques au niveau tourisme qui s'appliqueraient à cette piste, parce que d'ouvrir autant d'hectares qui sont totalement protégés à la circulation de tous, à part de faire un maillage complet, c'est la raison officielle des pompiers d'ailleurs, hein, c'est de faire un maillage complet entre les pistes qui se rejoignent toutes les unes les autres. Mais bon, dans les faits, on voit que ce maillage n'apportera rien de plus que de la circulation et comme on a soulevé le problème, qui apportera en plus un risque d'incendie supplémentaire. Pour le coup, de circulation dans un massif fermé.
Et puis, il faut dire la route qui amène chez toi, enfin ici à la ferme, mais aussi à cette zone, cette vallée, quoi. C'est très étroite. Et c'est curieux qu'on voudrait faire une piste de 8 mètres de large ou très large. Et finalement, les pompiers disent que ce n'est pas un problème, que la route en goudron qui monte, il y a des endroits où on passe à peine, quoi.
Ah bah de toute façon, la route, elle est totalement inadaptée pour des camions gros porteurs, que ce soit des gros camions pompiers. Après, tout ce qui est petits moyens de lutte contre l'incendie très rapide passe sur la route, ça c'est pas un souci. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'accès pour du gros véhicule, des camions particulièrement, ça sera pas possible, ça c'est clair. Bon, après, la raison officielle de la chose, c'est que justement, le fait d'ouvrir cette piste et de la faire communiquer sur le col en contre-haut de la vallée, ça expliquerait que les camions puissent venir d'en haut, ce qui est un non-sens aussi, parce que quand on sait qu'il y a plus de 10 km de piste pour rejoindre encore la route goudronnée de l'autre côté du col, on se doute bien que le temps que les pompiers arrivent de Gap, les Canadairs seront arrivés au moins une heure avant. Mais bon, après, c'est des enjeux, on va pas dire politiques, parce que c'est peut-être pas le mot, mais... C'est pas des enjeux environnementaux et c'est sûrement pas de la lutte contre l'incendie, ça c'est clair.
Et qu'est-ce que c'est le propriété en fait de la forêt? Je veux dire, est-ce qu'il y a beaucoup de communales? Est-ce qu'il y a des privés? Enfin, est-ce que c'est géré beaucoup par l'ONF? Parce que finalement, c'est ces gens-là qui peuvent peut-être avoir un intérêt de coupe ou d'exploiter la forêt.
En plus, il n'y a qu'une partie de la forêt qui est concernée par l'ONF, parce que la forêt communale fait à peu près 400 hectares, et il n'y a que 250 hectares qui sont soumis à l'ONF, donc qui seront exploités par l'ONF. Donc ça ne concerne même pas le massif forestier, et là on parle bien de production de bois, hein, on ne parle plus du tout de DFCI, je ne sais pas si
oui,
vous...
Bien sûr, oui.
Donc en fait, ils nous ont argumenté que c'est qu'une piste d'une telle grandeur devait être polyvalente, à servir à plusieurs choses, et bon, on s'aperçoit qu'en fait, elle servira surtout à l'exploitation du bois et à rien d'autre.
C'est une histoire de subvention aussi, non? Parce que je crois que j'ai lu que des subventions beaucoup plus élevées pour une piste DSCI qu'une piste juste pour sortir du bois.
Là, on parle de 80% de subventions. Donc c'est sur le projet de la piste de la montagne de Cigotier, on parle de 240 000 euros de subvention sur un projet global de 305 000 euros, hors taxes. Donc ça fait, c'est vrai qu'à charge de la commune, il resterait 60 000 euros.
Ce qui représente, si je ne me trompe pas, quand même déjà 1 000 euros par habitant à peu près.
Alors là, je n'ai pas fait le calcul. Mais
60 habitants, on m'a dit.
On est 70 habitants,
voilà. À peu près ça, quoi. J'aimerais quand même demander quelques mots sur cet endroit. Bon, voilà, on a cité plusieurs fois la montagne de Cigotier, mais en fait, c'est pas, on imagine, voilà, c'est une montagne, il n'y a personne qui habite peut-être et tout. En fait, c'est un hameau, semble-t-il. Il y a vraiment des très, très jolies prairies ici. C'est une zone maintenant assez habitée, avec une activité assez importante, agricole et élevage, non?
Eh bien, c'est revenu, oui. C'était une vallée qui était totalement abandonnée, on peut le dire, hein. Et donc l'activité revient petit à petit par le biais de l'agriculture, mais bon, ça reste quand même très très compliqué d'être agriculteur ici. Hein. On est à 1000 mètres d'altitude, des conditions très difficiles, pas de céréales, beaucoup d'animaux sauvages. Bon, c'est même plus une profession, c'est presque un sacerdoce, on va dire. Hein. Mais c'est vrai qu'on est quand même très franchement découragé de venir travailler ici. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. On n'est pas aidé, en tout cas. On n'est pas aidé.
Et toi, c'est des moutons?
C'est des brebis, brebis. Production d'agneaux. Ouais.
Dans un village donc, de 70 habitants, avec une mobilisation quand même qui n'est pas négligeable aujourd'hui, et beaucoup d'associations, et pas les moindres, je veux dire les chasseurs par exemple, c'est important dans ce village. Il y a quand même beaucoup d'organisations, d'associations protection de la nature, etc. La Ligue pour la protection des oiseaux, qui est une association très, très aimée en France, enfin qui a quand même pas mal de choses à dire.
Donc, l'écologie des verts,
etc.
SAPN, voilà. Le GAP.
Oui. Donc, comment le maire il va pouvoir maintenir ce projet? Est-ce que vraiment c'est imaginable?
Le maire a les institutions avec lui. Donc, à partir du moment où administrativement le préfet a signé l'autorisation de subvention, ça devient très très difficile au niveau administratif d'aller contre l'administration, hein, tout simplement. Hein, c'est pas simple, même en leur donnant les arguments, en leur montrant quand même que c'est pas si évident que ça et que de faire des revenus sur cette forêt, ça semble même très compliqué, que même les estimations de bois prélevés ont été surestimées. Une fois que l'administration est partie, on a énormément de mal à faire demi-tour. En plus, on a bien dit que ce projet se fait au détriment de projets qui, eux, pour le coup, sont vraiment nécessaires parce que c'est vrai que pour ma part, ayant vu brûler l'estérelle et la forêt, quand on voit ça, c'est vrai que bon, après on se dit qu'une piste, c'est pas trop trop grave dans le sens où on peut protéger la forêt. Mais bon, c'est vrai qu'ici, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, le côté sud, lui, il n'y a pas de projet de piste. Là où il y a du risque de feu, il n'y a pas de projet de piste. Que ça soit sur Sigottier ou sur les vallées qui sont parallèles, il n'y a aucun projet de piste des FCI sur les zones à risque.
D'accord, je ne sais pas si autre chose que tu voudrais rajouter par rapport à tout ça.
Ce qui est important, je pense qu'il faudrait vraiment, surtout au niveau du département des Hautes-Alpes, c'est quand même qu'on ouvre les yeux, qu'on voit vraiment l'importance à l'agriculture et l'impact de l'élevage sur la conservation des zones naturelles, parce qu'on dit beaucoup de choses et beaucoup de choses en négatif sur les éleveurs, sur l'agriculture. Et c'est vrai qu'en tant qu'ex-jeune agriculteur parti de rien, on se rend compte que c'est un parcours du combattant absolument abominable et on ne se rend pas compte du travail qui est fait en profondeur, que ne serait-ce que l'ouverture des milieux, de garder les milieux ouverts, ne pas attendre justement que la forêt soit complètement inextricable et pleine de pain pour commencer à se dire il faudrait ramener des brebis dans ce pays. Le travail en amont n'est jamais fait. On fait que mettre des pansements finalement sur une jambe cassée. Quoi.
Oui, il faut dire que dans le dossier que j'ai lu sur cette histoire du collectif contre la piste, ou l'autoroute forestière comme ils ont appelé ça, mais c'est bien marqué que les prairies, les champs sont extrêmement bien, qui sont très propres, et c'est un point très important pour éviter que des incendies puissent se répandre, non?
C'est plus qu'important, hein. c'est plus, je dirais même que c'est vital, parce que sur une zone comme ici, elle est magnifique parce qu'elle est exploitée. Alors c'est ça qui est très difficile dans ce dossier, c'est parce qu'on nous parle d'exploitation forestière, donc on nous dit oui, mais il faut que la forêt soit exploitée, mais... Donc on mélange la forêt avec qui est absolument pas une zone agricole. Hein. On mélange la forêt avec les zones pâturées et c'est moi je milite pour qu'on s'occupe d'abord des zones agricoles qui sont perdues, hein, depuis des dizaines voire des vingtaines d'années, oui, qui sont pleines de pins et qu'en plus on nous empêche de nettoyer nous en tant qu'agriculteurs. C'est quand même le comble.
Qui empêche?
Au niveau de la DDT, de la Direction départementale des territoires, c'est soumis à autorisation. On peut pas couper des arbres comme ça, c'est pas possible. Bon, ce qui est pas un mal en soi, hein, c'est pas, je reproche pas qu'on fasse attention à la forêt, bien au contraire. Mais ce qu'il y a, c'est que dans les démarches professionnelles des éleveurs, on nous met des bâtons dans les roues pour entretenir le milieu, et à côté de ça, on donne de l'argent à l'appel pour des projets qui sont complètement insensés, quoi. C'est ça qui est complètement fou, hein.
Après Nicolas Buffet, écoutons encore Jean-Luc Laplanche, le deuxième conseiller municipal qui conteste ce projet du maire de Sigottier.
Déjà en 2010, la proposition c'était d'installer deux citernes DFCI, donc d'une capacité assez importante, et avec la création de pistes forestières pour coupes à foigères. C'est-à-dire, coupes à foigères, c'est pour les habitants. Et ce qui permettait l'accès à ces citernes, tout au moins à une, parce que la première citerne était au village même de Sigotier. Et petit à petit, après une première étude de l'ONF avec monsieur le maire, il a été décidé qu'au lieu de faire une piste forestière, ça serait une piste DFCI. Donc on n'a pas trop su ce que c'était, à quoi ça correspondait. Donc vu qu'il y avait toujours les citernes qui étaient dans la question, on a voté pour. Et lorsqu'on s'est aperçu que cette DFCI allait coûter 305 000 euros, voilà, donc c'est énorme. C'est pas la commune qui va avoir tout à sa charge, mais c'est nos impôts. Et disons qu'il y avait d'autres communes où la piste DFCI aurait été mieux, plus nécessaire. Ici, il n'y avait pas cette nécessité-là. Il y a la nécessité de faire circuler les pompiers, mais avec le matériel qu'ils ont à Serres, une piste forestière normale aurait été bien suffisante.
Mais comment ça s'est passé au niveau du conseil municipal? Parce que je veux dire, si on écoute apparemment les anciens, on n'a jamais vu un incendie dans cette forêt-là, ce type de forêt, sur l'Ubac, avec des hêtraies.
La partie du conseil municipal et monsieur le maire qui sont pour cette piste ont été éblouis par la subvention. Il y a 80% de subvention et donc il reste une toute petite partie pour la commune. Mais bon, sur la petite partie, c'est 60 000 euros pour la commune. Alors que même une piste forestière n'aurait pas coûté ce prix-là. J'ai pas les chiffres en tête, mais elle n'aurait pas coûté ce prix-là, c'est sûr.
Comment ça se passe, le vie dans un conseil municipal comme ça? Parce qu'il semble-t-il qu'il y avait un refus de rendez-vous. Il n'y a pas de réunion publique pour expliquer quand même quelque chose qui va transformer la commune.
Lorsqu'on demande à monsieur le maire, soit une réunion publique ou tout au moins une concertation avec la population, on n'a pas de réponse. Ou alors, c'est des réponses vagues. Et la réponse vague, elle dure depuis, ça va faire maintenant, presque un an. Voilà. Donc, c'est on verra, j'ai pas de date, j'ai pas de réunion, j'ai pas de... Voilà. Donc, la réunion publique a été repoussée. En fait, on l'aura pas.
Mais je veux dire, par exemple, dans des villages de ce type, les chasseurs, par exemple, ils ont un rôle très important et un poids. Et ici, les chasseurs font partie du collectif contre ce projet. Et en plus, si j'ai bien compris, le maire, il est même membre de cette association de chasseurs. Donc, il est en minorité dans l'association. Mais il met beaucoup de gens à dos.
Apparemment, il a beaucoup de gens à dos. Mais la réponse qu'il nous a donnée, celle qui dit le plus, c'est... Tant que monsieur le préfet est d'accord avec ce projet, je serai derrière lui, puisque maintenant le préfet avait donné son accord, puisque la convention a été signée. Et tant que le préfet est avec moi, voilà quoi, je suis en mon droit. Après, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'ait pas voulu revenir en arrière par rapport à ce qu'on avait décidé sur les petites pistes. On lui avait dit de faire des pistes forestières. Et au début, on était tout à fait d'accord, les deux conseillers municipaux qui étaient. Puisque même la piste devait partir de chez monsieur Buffet, justement. Là. Donc, on était tout à fait d'accord. Et puis après, donc, ça, vu que ça s'est transformé en un projet enfin, énorme, quoi. Donc, ça n'a plus rien à voir avec ce que... Voilà.
Mais comment expliquer l'attitude des pompiers? Et deuxième question, c'est cette fameuse route d'accès jusqu'à la montagne entre Sigotier et ici. On a tous utilisé cette route goudronnée aujourd'hui, mais qui est toute petite et toute fine. Et soi-disant, ça suffit pour les pompiers. Or, dans la montagne, il faut 8 mètres.
Voilà, c'est ça. Donc, les pompiers, surtout, ont répondu à Mme Riwal que s'il fallait refaire le chemin de Sigotier, il fallait le refaire. Enfin, on le referait. Sauf que vous avez vu, en passant en voiture, déjà à l'église... Même si on refait, on aurait du mal. C'est soit le cimetière, soit l'église, donc il faudra choisir. Après, il y a le petit pont vert, je ne sais pas si vous... Voilà. Et en montant, vous avez une maison dans un virage avec une petite maison à côté, là aussi. C'est la maison de monsieur Antome qui fait la laine Angora. Et là aussi, les camions, ils ne pourront pas passer. Donc, on ne voit pas tellement l'intérêt. Alors, ils nous ont dit, à ce moment-là, ça passerait par Épine, puisqu'il va le faire une ouverture sur l'Épine. Mais en aucun cas, ils pourront redescendre par ici ou monter d'ailleurs. Donc, en fait, ils vont nous bouffer notre forêt ici, sur Sigotier, pour arranger, moi je le pense comme ça, pour arranger Épine aussi, quelque part.
L'hypothèse a été évoquée par plusieurs personnes, que peut-être derrière tout ça, il y a un projet touristique, même avec voiture ou autre engin motorisé, quoi. Est-ce que c'est peut-être ça l'explication ?
Eh bien, on commence à en être de plus en plus persuadé. Puisque, par exemple, il s'est fait ce même genre de piste à l'Épine, sur un chemin qui mène à un gîte éco. Et ils ont fait une piste des FCI et ils leur ont dit « Mais vous inquiétez pas, personne ne passera là, ça sera tranquille, c'est juste pour les pompiers. » Et en fait, depuis que cette piste est ouverte, ils n'arrêtent pas d'avoir des quads, des motos, des... Voilà. Donc, c'est plus des randos éco et calmes comme ils avaient prévu, quoi. C'est vraiment mécanisé.
Mais la logique de ça m'échappe encore, parce que je veux dire, bon, on peut aimer ça, on ne peut pas aimer, mais bon. Mais ouais. Quel intérêt pour la commune ?
Et j'en vois pas non plus, je ne vois pas de rentrée d'argent, d'autant plus qu'une piste des FCI, la commune est obligée de l'entretenir pendant 5 ans, c'est-à-dire débroussailler, déboiser pour que les pompiers puissent passer. Donc ce qui veut dire, c'est que si on fait une belle piste à chaque fois, les voitures passeront, et les voitures ou les quads, enfin voilà, sans payer quelque chose, quoi. Ça va être... je ne vois pas la recette que peut faire la commune. La seule recette qu'on nous dit, c'est le nombre de mètres cubes de bois qu'on pourrait couper. Sauf que lorsque, avec Madame Rivoile, on a fait un peu les études, on s'est aperçu que ce n'était pas que sur Sigotier, que ça concernait l'Épine, Serres et du privé aussi. Voilà. Et même si ça concernait que, admettons, Sigotier, ça ferait que 600 mètres cubes par an.
Auguste Audoux, ancien maire de la Piarre pendant 43 ans.
Et aussi propriétaire de terres sur Sigotier, non ?
Contribuable sur la commune de Sigotier depuis 1960. Voilà. Je ne suis pas contre les pistes d'exploitation, puisque j'ai créé en moi-même, en 1967, lors de l'élection de maire, la piste forestière qui rejoint le Dufre. Mais je suis contre une piste de cette envergure. Pour l'exploitation des bois, on n'a pas besoin d'une piste de 8 mètres de large. Et vis-à-vis des pompiers, je pense qu'une futaie à Lubac, une futaie de Fayard, ne brûlera jamais. Donc, ça servira uniquement à l'exploitation des bois.
Mais comment on peut expliquer qu'autant le maire que les pompiers, que la préfecture semblent avoir l'idée que c'est nécessaire d'avoir ce DSV, enfin, contre les incendies, quoi ?
Moi, je pense que d'abord... la plus grosse subvention qui vient sur cette piste, c'est le Conseil Général. Donc, ça n'a pas peut-être été étudié en temps normal, l'impact de cette piste. Comme je vous ai dit dès le début, je ne suis pas contre la création d'une piste pour l'exploitation des bois. Mais de telle largeur, ce n'est pas concevable.
Mais comment on peut expliquer qu'il y a des pompiers quand même, ils connaissent la zone ? Apparemment, il n'y a pas eu un incendie depuis plus d'un siècle.
Il n'y a jamais eu d'incendie dans une futaie à Lubac, dans une futaie de hêtre.
C'est que, vu le fait que les pompiers disent que c'est nécessaire, la préfecture suive.
C'est vrai que les pompiers ont une influence peut-être sur la préfecture. D'ailleurs, il paraît-il que le préfet a dit, puisque les pompiers sont d'accord, moi je le suis aussi. Voilà. Ils ont peur de la vie des pompiers. En tant que contribuable de la commune de Sigotier, je pense que c'est un projet qui est trop cher. Voilà. 300 000 euros.
Parmi les associations qui font partie du collectif, il y a la CCA, l'Association communale de chasse à griller de Sigotier. Henri Landry en est le trésorier.
Et effectivement, depuis le début de l'affaire, nous avons adhéré à ce collectif pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu effectivement au départ un manque de concertation, de discussion. On aurait aimé en discuter. Il faut qu'il se fasse parce qu'il doit se faire quelque chose. Il faut que la population ait accès au bois. Mais bon, vu qu'il n'y a pas eu de concertation, on a quand même été interpellés. Voilà. D'autre part, ce massif magnifique à un caractère sauvage nous permet de faire de bonnes parties de chasse. Nous chassons essentiellement le gros gibier. On a mis en place des postes. Ce type de chasse demande quand même pas mal d'efforts. Il faut quand même ne pas faire n'importe quoi. Il y a cette notion de sécurité. On a créé des postes. De se voir mettre en place de telles pistes, comme nous on appelle ça une autoroute forestière, ça remettait en cause notre façon de chasser d'une part, et puis d'autre part, ça remettait en cause également la sécurité, puisque ce massif par lui-même était bien fermé, on avait nos postes et on avait nos habitudes. Voilà.
Pour comprendre, vous êtes donc de l'association de la chasse donc de Cigotier, qui était un petit village. Hein. Je crois qu'il y a moins de 100 habitants. Non ?
Voilà, alors je crois qu'on doit être... On est un peu plus de 80 d'inscrits sur la liste électorale. Il doit y avoir une soixantaine d'habitants, en réalité, sur la commune. Voilà.
Ce qui étonne dans cette histoire, c'est que le mairie... il y a deux conseils municipaux, apparemment, clairement, dont votre collectif, mais le reste sont... peut-être favorable, mais en tout cas le maire, il semble-t-il très très favorable. Et dans un tout petit village comme ça, ça doit créer des tensions, non ?
Effectivement, tension il y a, certainement parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit tout de suite, il n'y a pas eu de concertation. On en aurait discuté, je crois qu'on aurait trouvé des solutions. Il faut en trouver une solution, vous voyez. Il faut qu'on trouve la possibilité pour chacun, par exemple s'il y a des coupes à fougères, il faut qu'on puisse aller vers les bois, ouvrir quelque chose, c'est certain. Mais enfin là, nous proposer un ensemble de plus de 10 km de pistes avec une largeur très conséquente, ça remet beaucoup de choses en cause. Voilà.
Mais est-ce que vous pouvez imaginer, quelque part, s'il y a une motivation derrière cela, que c'est peut-être pour... dans le dossier de votre collectif, c'est un peu... On se demande quoi, s'il n'y a pas des coupes plus importantes. Ils imaginent qu'il y a une valeur de bois à sortir qui peut être intéressante pour la commune.
Alors effectivement, moi je parle essentiellement en tant que chasseur. Les chiffres, je ne les maîtrise pas trop bien. Mais c'est vrai que habitant moi-même dans la commune, j'ai quand même l'impression que sur le plan financier, on peut provoquer un déséquilibre. Parce que pour l'instant, c'est 60 000 euros. La commune s'engage sur une période quand même assez conséquente. Il y aura l'entretien de la piste. Il y aura peut-être aussi, parce que ces travaux vont se faire avec l'aide d'aide venant du Conseil général, du Conseil régional et même aussi de l'Europe. Encore faudra-t-il, pour avoir ces crédits, probablement faire des pré-relais. Donc je crois encore que là, alors je n'ai pas forcément la prétention de bien être à fond de la chose, mais enfin, en tant qu'habitant, c'est vrai que là aussi je réagis et que je me pose pas mal de questions. Voilà.
Vous êtes combien dans votre association de chasseurs ?
Alors, nous sommes 25 chasseurs, entre 20 et 25 chasseurs tout à fait agréés. Puis nous avons surtout l'aide de personnes extérieures de la commune qui viennent nous épauler, essentiellement pour sacher le gros gibier.
Voilà. 25, ça veut dire du village ?
Voilà, c'est ça. Voilà, qui ont leurs droits parce qu'ils y habitent ou parce qu'ils possèdent des terres. Voilà.
Mais c'est quasiment la moitié du village.
Parce que vous avez des gens qui possèdent des terres, qui viennent chasser, mais qui n'habitent plus sur la commune. Voilà. C'est vrai qu'il faut, moi, comme je l'ai dit, écouter les pompiers, mais on écoute aussi nos anciens qui, depuis, on peut parler d'une centaine d'années, n'ont jamais vu un feu dans ce massif qui se trouve dans les Ubac. Donc encore là, on s'interroge pourquoi... investir autant d'argent pour peut-être que ça aurait été à un autre endroit, mettons dans les adroits, ça se serait beaucoup mieux compris. Ouais, voilà. Thank you.
Juste avant ce pique-nique du 21 juillet, un groupe de 15 bénévoles mené par Sarah Fouraste du groupe Chiroptère de Provence a passé la nuit dans la forêt de la montagne de Cigotier. Ils cherchaient à savoir quelles espèces de chauves-souris y habitent. Sarah Fouraste.
Je représente l'association du groupe Chiroptère de Provence. La SAPN nous a demandé d'intervenir pour cet hiver pour faire une prospection des arbres à cavité dans lesquels il pourrait y avoir des chauves-souris. Et puis là, en période estivale, on a essayé de faire un inventaire des chauves-souris. Donc on a passé 2 jours avec un groupe d'une quinzaine de bénévoles pour essayer d'identifier les espèces de chauves-souris présentes dans le bois de la montagne de Cigotier. Donc on a réalisé sur 2 nuits, on a réalisé des captures de chauves-souris et pour les avoir en main et identifier les espèces dont il s'agit. Ce sont des chauves-souris que l'on relâche immédiatement, c'est juste pour avoir les espèces. Et ensuite, on a réalisé des écoutes donc avec des détecteurs à ultrasons manuels et puis des écoutes avec des détecteurs automatiques. Donc ça, ce sont des résultats que je dois analyser par la suite et pour identifier les espèces présentes également.
Il y a aussi une démarche quoi, par rapport à d'autres espèces non, dans le massif. C'est un autre groupe ou vous essayez de regarder ça aussi ?
Alors, il n'y a pas d'autres groupes. La SAPN a fait appel aux naturalistes en général. Il y a un entomologiste qui passe donc pour faire des prospections insectes. Il pose des pièges à insectes et qui vient relever tous les 15 jours à peu près. Et puis, pour la botanique, non, je crois qu'il n'y a personne. Nous, on est... Quand on croise des espèces que l'on connaît, on les identifie et on les note, donc ça apparaîtra. Après, on n'est pas spécialisé en botanique, donc on ne fait pas un inventaire exhaustif.
Mais dans d'autres lieux, il y a eu des grands projets d'ailleurs, qui parfois sont mis en question, ou en tout cas, où il y a des gros changements qui doivent être faits, justement à cause de certaines espèces, chauves-souris et autres. Est-ce que si jamais vous pouvez vraiment montrer qu'il y a un certain nombre de chauves-souris ici, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans le cadre de la question de cette piste quoi. Est-ce que ça va peut mettre en question ou changer les conditions dans lesquelles ça doit être fait quoi.
Ça peut être les deux. Ça peut être un effet sur les conditions. Par exemple, si on identifie des colonies de reproduction, ça peut avoir un effet sur la période d'intervention, période de travaux. Et puis sinon, c'est si on identifie des colonies sur le tracé, ben, la destruction de gîtes, les chauves-souris sont des espèces protégées. Donc la destruction de gîtes demande une dérogation ministérielle. Donc normalement, ça peut arriver à annuler les travaux dans le meilleur des cas si l'intervention est grosse.
Donc 15, c'est quand même assez considérable. Vous faites ça assez souvent comme votre association d'aller dans des zones comme ça à plusieurs.
15 bénévoles, ouais, c'est bien et je les remercie beaucoup. On fait régulièrement des appels à bénévoles pour des petits projets. Là, c'est sur un week-end, sur une semaine, sur juste une soirée de prospection, ça dépend. Mais oui, on sollicite le réseau bénévole assez régulièrement. Et ils répondent très bien, et merci.
Les recherches de l'équipe Chiroptère de Provence ont déjà établi que 2 espèces de chauves-souris habitent dans cette forêt. Selon Sarah Fouraste, il faut maintenant attendre les analyses des enregistrements ultrasons pour savoir s'il y en a d'autres espèces encore. Revenons maintenant à la réunion sous les arbres. La controverse autour du projet de piste DFCI est complexe et beaucoup d'aspects ont été abordés. Comme par exemple le fait que toute la zone concernée a été déclarée une SNIEF, une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Élise Révoile.
Ça veut dire que scientifiquement, c'est une zone qui est reconnue comme intéressante. Mais la loi ne la protège pas. Ça veut dire que c'est complètement schizophrène. On vous dit là, c'est très très intéressant. Mais bon, il peut se passer n'importe quoi. Alors qu'en Natura 2000, par exemple, si la zone était Natura 2000, elle serait protégée. Ça veut dire que... Enfin, elle serait protégée, pas complètement. Hein. Quand ils ont envie de faire passer une autoroute, ils la font passer. Il ne faut pas non plus faire d'illusions. Mais si on veut faire passer une autoroute en Natura 2000, il faut, par exemple, vous détruisez en Natura 2000 une certaine zone, vous êtes obligé de faire une compensation ailleurs. Là, en Zenia, vous faites ce que vous voulez. Hein. Sauf s'il y a des imbéciles comme nous, qui commencent à dire, mais il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Hein. Donc là, toute la zone de la piste est en Zenièvre. Tout. C'est une très, très grande Zenièvre qui prend tout ça et le haut là-haut. Et parce que c'est, ils ont considéré, quand ils ont fait la Zenièvre, qu'il y avait un ensemble naturel. Écologique. C'était un ensemble écologique c'est naturel. Bien. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, il y a vraiment. C'est un petit peu les Alpes en réduction. Vous avez une vallée, comme ça, avec le ruisseau au fond, plein de sources à Lubac, au contraire, un adret très sec. Voilà, donc ils ont considéré que c'était intéressant dans l'ensemble.
Le collectif a tenté de communiquer son avis sur le sujet à certaines autorités ou personnalités, mais sans grand succès. Élise Rivoal évoque le parc des Baronnies et la députée socialiste des Hautes-Alpes, Karine Berger.
Le parc des Baronnies, on les a contactés, le maire les a contactés et le parc des Baronnies a dit officiellement « Nous ne voyons pas d'opposition ». Alors nous avons essayé de recontacter la vice-présidente qui est Madame Nivou. Je l'ai vue une fois, elle m'a même donné son téléphone personnel, je l'ai rappelé, mais elle n'a jamais donné un rendez-vous. C'est exactement comme Madame Berger. On l'a vue deux fois, Madame Berger, et elle ne répond plus jamais. Elle ne répond même pas à M. Linossier, qui est le délégué PS du coin. Voilà, ils ont perdu le téléphone, voilà, c'est ça. Donc au niveau, le parc des Baronnies, Madame Nivou est la vice-présidente. Donc si Madame Nivou est d'accord avec la piste, ils ont dit c'est une Zenièvre, donc il n'y a rien à faire, on s'en fiche. Voilà. Je pense qu'ils ont été très très vite, ils n'ont pas cherché à savoir quoi que ce soit. Voilà. Ils ont dit c'est pas une Natura 2000, donc... Ça n'a pas été plus loin que ça. Linossier, c'est un monsieur de Serres. Bon, en tout cas, il a représenté le PS. Il a été conseiller général. Lui, il est absolument contre la piste. Il est venu à toutes nos réunions. Il a pris position. Il a signé la pétition, etc. Mais donc, il a normalement une entrée auprès de Karine Berger. Mais il m'a dit, il m'a envoyé un mail l'autre jour en me disant, je lui ai demandé, etc. Elle ne me répond pas.
L'année dernière, par exemple, ça avait brûlé à Serres, qui a une versant sud. Là, il y avait peut-être nécessité de faire une piste derrière le village de Serres pour pouvoir avoir un accès rapide pour les camions et les pompiers, les camions de pompiers. Or, il n'y a pas de projet. Et c'est le même conseiller général, M. Roy, c'est ça, maire de Serres, hein, qui porte ce projet ici, alors qu'il n'est pas capable de le porter chez lui, dans sa commune. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses qui font que... Ce projet-là, il est complètement biaisé. On voit bien derrière que ce n'est pas une réalité de la protection de la lutte contre les incendies pour la forêt, mais bien un détournement de l'argent pour faire des pistes qui serviront à exploiter les forêts publiques, certes, mais aussi privées. À moindre coût, parce que c'est des subventions Conseil général et européennes. Et que quand ces subventions arrivent, elles sont faites pour un certain temps, et il faut les consommer, hein, c'est toujours la problématique des subventions. Et puis en plus, il n'y a pas besoin de faire une étude d'impact pour voir ce que ça va engendrer derrière. Parce qu'on ne sait pas ce que ça, toutes les conséquences, hormis la pénétration humaine par les routes, mais il peut y avoir d'autres problématiques qu'on ne connaît pas aujourd'hui, c'est tout. C'est très humide, hein, c'est aussi une zone c'est un réservoir d'eau pour la région. Le fait de tailler dans la montagne, ça peut changer complètement les circuits de circulation de l'eau souterraine, voilà, les sources, tout ça. Donc je ne sais pas si aujourd'hui il y a eu une boîte privée ou un service de l'État qui a travaillé pour faire un recensement des espèces, alors que ce soit des grandes espèces mammifères, oiseaux, mais aussi à tous les insectes et puis toute la flore aussi. Ce qui fait la force de cette zone, c'est son ensemble. Hein. Et c'est ça qu'il faut en fait protéger. C'est cette unité Voilà. Et il y en a de moins en moins, justement. Elles disparaissent parce que de partout, on ouvre les milieux et forcément, après... Parce que du jour où ça va être ouvert, on va couper, on va exploiter, donc on va changer le rythme de la forêt. On peut refaire de la plantation même peut-être plus ciblée. Et ça changera l'ensemble du... Donc des vallons comme ça, surtout dans la vallée du Buëch, il n'en reste pas beaucoup sans ouverture. Eh bien, c'est une des raisons valables pour se battre, pour essayer de le conserver. Voilà.
Alors, en ce moment, la procédure, il y a 3 recours gracieux auprès du préfet. Un qui a été fait donc par la SAPN, un autre par la CCA de Sigottier, et un troisième par les 2 conseillers municipaux qui sont opposés à ce projet. Donc ils sont toujours en cours.
Ils n'ont pas répondu dans les délais. Les délais sont passés.
Le préfet a changé depuis.
Oui, et on ne sait toujours pas. Voilà. Il y a ça.
Je l'ai ramené, mais si le préfet a répondu, j'ai reçu...
Ah,
je ne l'ai pas là, il y a quelques jours. Et donc, en gros, c'est le nouveau préfet qui répond.
Oui.
En gros, il n'y voit pas de... Il n'y a rien de... J'ai plus la formule concrète, mais il n'y a rien qui s'oppose. Oui, excusez-moi.
Le préfet a répondu.
Rien qui s'oppose.
D'accord.
Ça que par rapport aux règles, tout a été fait dans l'ordre et tout ça. Enfin, il ne voit rien qui s'oppose.
D'accord. Il ne voit rien pour s'opposer.
Il ne nous reste plus qu'aller au tribunal administratif. Alors, on a fait une plainte. On a mis en route une plainte européenne. Elle est déjà partie. On a reçu l'accusé de réception. Donc, parce que nous, on estime qu'il y a un détournement de subvention. Ce n'est pas une vraie DFCI, on estime qu'il y a un détournement de subvention. Donc, l'Europe a reçu notre plainte. Je ne sais pas quand. Normalement, l'Europe, paraît-il, répond relativement vite par rapport aux tribunaux français.
C'est ça le paradoxe, c'est que pour avoir des subventions, on fait des investissements supérieurs à ceux qu'on aurait fait pour satisfaire simplement le besoin. Et nous, ce qu'on dit à Europe Écologie Les Verts, c'est qu'il faut arrêter de faire des projets. Mais les grands projets inutiles, ça c'est un grand petit projet inutile pour nous. On se bat contre d'autres qui sont beaucoup plus importants, mais à l'échelle du territoire ici, c'est effectivement un grand projet inutile qui va mobiliser des financements publics qui seraient bien mieux employés ailleurs. Donc on est vraiment dans une logique absurde. Et nous, on dénonce ce genre de fonctionnement en disant investissons pour satisfaire de vrais besoins et arrêtons de gaspiller l'argent, surtout qu'il devient de plus en plus rare.
Quand le Conseil général vote une subvention, la subvention européenne est automatique. Donc, dans la mesure où c'est un projet du Conseil général, il y a automatiquement la subvention. Mais ce projet-là a utilisé presque 90% des crédits des FCI de l'année 2012, du département. Et c'est pour ça qu'on a refusé à 20 avant sa vraie piste des FCI. On leur a dit... Là, il la fallait. C'était le village qui était en péril. Tandis qu'ici, il n'y a aucun risque... Je veux dire humain, voilà. C'est uniquement politique. Nous, on pense que c'est politique. Alors, ça a été voté par le CG. J'ai interrogé des gens du CG qui l'ont voté, individuellement, comme ça, pour leur dire... Ils disent, Monsieur Roy nous a dit que c'était un bon projet. Donc, ça a été voté. Voilà, voilà, voilà.
À propos des financements, je voulais porter une petite précision. Tout à l'heure, j'ai parlé de la région. La région n'a pas donné encore de financement, mais par contre, elle est sollicitée pour financer. Oui. Et sa participation, je crois, conditionne aussi la participation des fonds européens. Ça marche un peu ensemble. Et au niveau du groupe régional d'Europe Écologie Les Verts, on va faire en sorte que les gens, justement, ne votent pas comme au Conseil général des Hautes-Alpes, en disant, de toute façon, ça vient de là-bas, c'est des FCI, donc on y va. Ce n'est pas une grosse somme en plus qu'il aurait demandé, hein, puisque c'est peut-être entre 20 et 25 000 euros, donc pour la région, ce n'est pas énorme. Mais on va essayer, nous, de faire justement bloquer ce financement et donc de mettre un frein au projet par ce biais.
L'ONF ne veut pas être maître d'œuvre, oui, pour l'instant, du projet du maire. Donc le maire, si je comprends bien, a cherché un nouveau maître d'œuvre. Pour l'instant, il n'a pas trouvé. Parce que ce qu'on m'a dit, c'est qu'un maître d'œuvre qui prendrait ce chantier-là, sachant que l'ONF n'en a pas voulu, alors que ça traverse des bois gérés par l'ONF, il faudrait qu'il soit fou. Il faudrait qu'il soit fou, parce que de toute façon, l'ONF est maître de ces forêts-là. Et si l'ONF a refusé, c'est qu'il y a une raison. Alors, il paraît qu'il y a un autre projet, mais je pense que ce n'est pas du tout le même que celui du maire. Et le maire tient à son projet. Donc, est-ce qu'il acceptera de faire un plus petit projet, celui de l'ONF? On ne sait pas. On n'en sait rien, là. C'est des on-dit.
Il y a les élections.
Oui.
Oui, mais...
Il faut gagner
mois de mars.
Voilà.
Mois de mars.
Donc, si on n'avait rien fait, si on n'avait rien fait, le projet serait déjà réalisé. Hein, voilà. Alors là, il n'est pas réalisé. Le maire veut absolument le réaliser au début de l'automne.
Et s'il n'a pas encore de maître d'œuvre, il est mal barré quand même. Hein.
Donc le recours tribunal administratif, il faut le faire, ça c'est un peu ça. Je pense que le recours au niveau de l'Europe aura peut-être plus de... On peut avoir plus d'écoute de ce côté-là. Et une chose aussi importante, c'est de gagner du temps par rapport aux élections, de façon à ce que le projet soit arrêté et repris avec une nouvelle concertation, c'est surtout ça. Et après, ben, y a le dernier recours, bien... C'est l'action des citoyens sur le terrain.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a les chasseurs, les écolos. Enfin voilà, on est tous ensemble pour le même projet. C'est quand même assez rare, ça.
C'est une alliance que je crois que j'ai presque jamais vue ailleurs. Hein, parce qu'en général, c'est des gens qui se tirent dans les pattes, plutôt.
Voilà, on tire un peu dessus, mais là, ça va. Voilà, donc je trouve ça très très fort. Si on peut la soutenir, c'est elle qu'il faut soutenir. Voilà, voilà.
On dirait que c'est le seul aspect positif de cette affaire.
Ah oui, 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 c'est ce qu'on disait avec Madame Riwal, c'est que ça nous a permis de connaître des gens qu'on connaissait pas et de s'apprécier, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. Tout en étant très différent, hein. Ouais, ouais, c'est sûr. Voilà.
C'était Fausse Piste à Cigotier, une émission de Radio Zinzine. Si vous voulez trouver plus d'informations sur cette lutte contre la piste à Cigotier, vous pouvez consulter le site suivant http://tfci-cigotier, donc S-I-G-O-T-T-I-E-R, eklablog.com. Vous pouvez écouter ou télécharger cette émission sur le site de Radio Zinzine, www.radiozinzine.org. Zinzine s'écrit Z-I-N-Z-I-N-E.